Assalamu alaikum wa rahmatullah barakatuhu. Que la paix et l'amour rayonnant d'Allah soient sur chacun d'entre vous. Évidemment, pour commencer, j'espère que vous portez bien et que la paix est au cœur de vos foyers, mais également de vos cœurs, inshallah. Je pars sur une intro mi-écrite, mi-improvisée, mais pour le coup, c'est pour vous parler d'une décision qui a été mûrement réfléchie. Avant de vous laisser profiter de cet épisode, je voulais vous faire part d'une annonce importante, c'est que dorénavant, les épisodes seront diffusés un mardi sur deux, et non tous les mardis comme c'était le cas avant les vacances estivales. Je reviendrai sur le détail des raisons qui m'ont poussé à prendre cette décision dans une newsletter qui, inshallah, sera diffusée dans la même semaine que cet épisode que vous apprêtez à écouter. Mais pour vous donner quand même quelques éléments de réponse et pas juste vous laisser sur cette info, je voulais quand même vous expliquer rapidement pourquoi, ou au moins une ou deux raisons de cette décision. C'est parce que, dans un premier temps, le fait de diffuser toutes les semaines n'est pas compatible avec plusieurs choses dans ma vie. C'est pas compatible avec le fait que je souhaite développer des projets autour du podcast, des projets qui me tiennent à cœur, des projets sur lesquels j'ai déjà commencé à investir pas mal de temps et auxquels je crois profondément. Je vous en dirai plus tard. C'est pas non plus compatible avec le fait que moi j'aime bien être régulière dans les diffusions de podcasts, et là vous avez clairement pu le constater durant la période estivale, j'ai pas du tout été régulière, j'ai été emportée par la vague, sans mauvais jeu de mots. Ça a été vraiment, en fait je sais pas comment vous le voyez, mais la réalité c'est que, en fait, juillet, août en France, quand bien même toi t'as envie de travailler, d'un point de vue sociétal, familial, bah littéralement tout le monde est en vacances en fait, et en plus bon, moi j'ai déménagé et alhamdoulilah, ma famille est venue me visiter et c'était une très 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 grande ni'ma. Mais soyons très clairs, c'est pas du tout compatible avec des horaires de travail fixe, etc. etc. Donc je me dis plutôt que de travailler à chaque fois dans le fil de l'eau, Inch'Allah, le fait de diffuser une semaine sur deux, ça me permettra d'être mieux organisée et d'anticiper justement ces grosses saisons où le travail n'est pas possible, en tout cas pas dans un timing habituel. Et parmi peut-être les autres raisons que je peux vous partager aujourd'hui, c'est que j'aimerais prendre le temps d'écrire plus, notamment à travers les newsletters, mais aussi de vous écrire plus. C'est-à-dire que moi, j'ai reçu beaucoup de mails, enfin beaucoup, tout est relatif, hein, Dieu merci, je ne suis plus sur les réseaux sociaux, donc je pense que par rapport à des personnes qui sont actives sur les réseaux sociaux, le nombre de messages que je reçois est tout simplement ridicule. Mais moi, je suis quelqu'un qui... Je ne sais pas être... Je ne sais pas recevoir plein de messages et pas pouvoir y répondre, ou ça me stresse trop en fait. Et là, à mon sens, je reçois déjà, pardon, suffisamment pour être déjà un peu stressée par le fait de... C'est pas tant stressée, c'est plutôt attristée par le fait de ne pas pouvoir répondre. Donc voilà, j'espère que diffuser un peu moins me permettra d'être un peu plus en présence pour... Eh ben, pour vous, mais aussi dans ma vie privée et pour les autres missions qu'Allah me confie au quotidien. Voilà, j'en dirai pas plus pour le moment, parce que vraiment c'est une pré-intro qui est déjà très longue à mon goût, mais je ne sais pas faire court. Mais voilà, ça me tenait quand même à cœur de vous partager la nouvelle. En attendant, et sans plus tarder, je vous laisse profiter de ce nouvel épisode inédit. Et évidemment, je nous souhaite, Inch'Allah, une excellente rentrée. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Je sais pas si c'est indirectement, ou si c'est culturel, ou si on entend ça tout le temps. Donc, mais mémoriser le Coran par cœur, c'est le projet d'une vie, et c'est le rêve de tout musulman. Et on se dit, je suis sur le chemin, bah pourquoi pas moi ? La lecture du Coran, c'est le premier lien que l'on a avec le Coran, et ça a beaucoup de mérite. On va pas dire que celui qui lit le Coran, il a pas de mérite, que même s'il le comprend pas, que celui qui le mémorise même sans le comprendre, c'est un égaré, etc. Non, loin de là. Tout ce qui est en rapport avec le Coran, c'est bénédiction et c'est récompensé et c'est fortement recommandé. Par contre, si on se contente de ça, on ne profite pas à 100% des bienfaits du Coran. À ce moment-là, je me suis dit, en fait, je vais arrêter de mentir. Ok, je suis revenu avec un diplôme, mais voilà, j'ai pas progressé, quoi. Je suis pas ce diplôme là, c'est pas mon accès au paradis, entre guillemets. En fait, je me rends compte que dans ma relation, moi, personnelle avec le Coran, je suis pas épanoui. Et ça fait quelques années, hein. Mais je le fais quand même. Et de là, un de mes enseignants, il me dit, mais ce que tu ressens, tout le monde le ressent. Mais les gens ne veulent pas affronter ce problème-là.
Qui ne s'est jamais dit, j'aimerais tant ressentir le Coran et non le lire comme un simple roman? Qui n'a jamais ressenti une culpabilité à scroller plus aisément vers l'infini et l'au-delà plutôt que de se diriger vers la parole d'Allah? Cela nous est tous arrivé au moins une fois, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je reçois un frère en Allah qui a traversé un océan, changé de continent, pour parfaire son rapport au Coran. Dans la première partie de notre conversation, Abdelkarim, fondateur du projet Vivre le Coran, nous partage ce qu'il a appris durant ses années d'études et pourquoi il en est finalement ressorti peu grandi. Son expérience est très belle, car elle est aussi singulière qu'universelle. À n'en pas douter, vous vous retrouverez dans certaines de ses émotions, dans ses décisions, mais également peut-être ses déceptions. Vous pourriez me demander, mais Madina, qu'est-ce que ça a à voir avec le mariage, avec l'amour? Auquel cas, je vous répondrai tout, ou du moins beaucoup. Le Coran soigne notre cœur, et le cœur est versatile. Sans guidance, il s'apparente à un bateau à la merci de bourrasques déchaînées. Lorsque notre cœur n'est pas en connexion avec la parole de notre Créateur, il est dirigé par des émotions mal maîtrisées et un ego surdimensionné. Et nous le savons que trop bien, un ego non éduqué peut faire bien des dégâts dans toutes les relations, mais particulièrement au sein des unions. Ressentir le Coran, ça s'apprend. Pour découvrir comment notre cher frère Abdelkarim y est arrivé, je vous laisse en sa compagnie, et cela sans plus tarder. Je vous souhaite, Inch'Allah, une excellente écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu, mon cher frère Abdelkarim, comment ça va?
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, alhamdulillah, tout va bien et vous?
Je vais très bien, je vais très très bien et je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. On devait se voir plus tôt et puis finalement, enregistrer plus tôt et puis finalement, ça s'est pas fait. Mais je pense que c'est encore mieux que ça se fasse maintenant parce que de toute façon, le timing d'Allah, il est parfait. Et aujourd'hui, je trouve que c'est intéressant de vous recevoir vous parce que on a déjà fait un épisode. Enfin, en tout cas, moi, j'ai déjà enregistré un épisode autour du Coran il y a quelques semaines maintenant. Mais je trouve, je suis même convaincue que votre présence, votre savoir, votre vision par rapport au Coran, elle viendra compléter d'une belle manière le premier épisode qui a été fait à ce sujet. Donc, merci de votre disponibilité.
Bah, merci à vous. Je vous remercie pour cette invitation à votre podcast. Et j'espère justement apporter un plus aux podcasts précédents qui ont été enregistrés et apporter à vos auditeurs une pas une nouvelle vision, mais un autre angle d'attaque par rapport au Coran.
Exactement. Moi, je le pense aussi, Inch'Allah. Bah justement, avant qu'on parle de votre vision, etc., est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et en même temps que vous présentez, nous indiquer justement un peu quel est votre parcours par rapport à l'islam, parce que moi, en me renseignant un petit peu, j'ai quand même le sentiment que pour qu'on comprenne bien le projet Vive le Coran, on doit un peu revenir sur votre rapport, pas seulement au Coran, mais votre rapport à la foi.
Exactement. En fait, le projet Vivre le Coran, il reflète vraiment mon parcours et c'est vraiment mon expérience avec le Coran qui a amené ce projet. Et rapidement, donc, moi, je suis né en France, dans la région parisienne. J'ai grandi comme un jeune des années 80-90. Parcours scolaire, alhamdoulilah, normal, hein, bac, licence, etc. Traditionnel, on va dire ça comme ça. Et avant l'université, j'avais pas spécialement un rapport avec l'islam. Donc moi, je suis né d'une famille, comment on appelle ça? En fait, ma mère et mon père sont d'origine et de religions différentes. Donc ma mère est française et on va dire chrétienne. même si voilà, il n'y a pas de pratique derrière. Et mon père est algérien et d'obédience musulmane, même si pareil, il n'y avait pas de pratique. Et mes parents, en fait, ils étaient dans cette optique de nos enfants, comme ils ont le choix, entre guillemets, au niveau religieux, on les laisse grandir et arriver à un certain âge, ils choisiront. Donc, on n'avait pas spécialement d'éducation religieuse. On posait des fois certaines questions, mais c'était pas quelque chose, c'était rare quand on parlait de Dieu ou de religion à la maison. Je dirais pas que c'était un sujet tabou, mais c'était un sujet secondaire.
C'était un non-sujet, en fait, quelque part.
Voilà. Et comme il devait y avoir des divergences du côté de mes parents, donc ils voulaient pas spécialement rentrer dans ce genre de conversation. Et je pense également qu'il y avait une ignorance de leur part, qu'ils n'avaient pas beaucoup de connaissances, que ce soit par rapport à la religion chrétienne ou à la religion musulmane, donc ils mettaient ça de côté. Mais donc j'étais dans un entourage où il y avait beaucoup de musulmans, et petit à petit, donc subhanallah, je me suis rendu compte il y a peu de temps, hein, quand j'ai fait une petite rétro, que j'ai fait l'école primaire, le collège et le lycée vraiment avec une majorité d'amis musulmans. Et c'est qu'une fois où je suis allé à la fac et je me suis écarté de cette ambiance-là, donc j'étais à une fac où c'était plutôt, il y avait très peu de musulmans, que là, j'ai fait un retour aux sources. Donc vers l'âge
c'est
de...
dingue. Ouais. Le retour, c'est pas fait quand vous étiez entouré. Et ça s'est fait pour personne, du coup, ou c'était juste vous? En fait, toutes les personnes qui étaient de confession musulmane autour de vous, en fait, c'était un état de fait, mais il n'y avait pas vraiment de recherche, c'est ça que vous dites?
En fait, je dis plus que le fait d'être entouré que de musulmans, en fait, ça a fait comme si ça faisait de moi d'un musulman. Et le fait de m'écarter et d'avoir un autre environnement, bah, je me suis posé des vraies questions. Et aussi, je pense qu'il y a eu pas une coïncidence, mais un bon timing, que les questions que tout le monde se pose sont arrivées à ce moment-là. D'où je viens, où je vais et pourquoi je suis là. Et donc, de là... Voilà, tout seul, j'ai fait certaines recherches, j'ai acheté des livres, je posais des questions, et je me suis aperçu en fait que même mon entourage qui était musulman, mes amis proches, ils n'avaient pas beaucoup de savoir, et eux-mêmes, de leur côté, ils étaient dans une recherche. Et un soir, on a commencé à discuter, et on s'est aperçu qu'on était tous dans ce retour à l'islam. Et donc moi, je considère que j'ai un parcours de converti, mais même mes amis qui étaient musulmans de souche avaient ce même parcours de recherche et de retour à l'islam.
Absolument.
Et donc, on s'est retrouvés à 19-20 ans à passer des soirées, à discuter, à échanger, et tout ça, ça faisait augmenter la foi. Et ensuite, moi, je suis très scolaire, donc j'ai dû prendre des cours, j'ai dû assister aux cours à la mosquée pour évoluer au niveau spirituel. Et c'est comme ça, en fait, que ça s'est fait. C'était plus un besoin d'avoir des réponses à des questions. Je pense que ces questions, on est tous amenés à se les poser une fois dans sa vie. Il y en a qui préfèrent botter en touche et ne pas se prendre la tête pour y répondre. Et il y en a d'autres qui vont creuser un peu plus. Et donc, c'est comme ça qu'il y a eu un premier retour à l'islam. Et ce retour, il a vraiment été bien accompagné, parce qu'il y avait l'imam de la mosquée qui nous donnait des cours sur la vie des compagnons, sur la vie des prophètes en général. Donc ce sont vraiment des sujets et des thèmes qui accrochent tout de suite, parce que c'est beaucoup d'histoires, beaucoup de récits. Et comme je le dis, l'imam, il a eu cette intelligence de nous accrocher à la mosquée par le Coran. C'est-à-dire qu'on était nouveau, on ne savait pas lire, etc. Et il nous disait, demain vous venez et tu me récites telle sourate. Et donc, on était pris dans... comme il nous donnait du temps, on ne pouvait pas dire non, j'ai pas appris, etc. Il nous donnait du temps et on aimait ça. Hein, c'était, on était un groupe, on partait à la mosquée, on devait réciter notre sourate. Bien sûr, en premier, c'est l'apprentissage à travers la phonétique. Et donc c'est là où ma première relation avec le Coran, comme je le dis, était une relation vraiment de mémorisation, sans parler de compréhension, sans parler, c'était vraiment la mémorisation, et c'est cette mémorisation qui m'a justement fait avoir cette régularité avec la mosquée.
C'est hyper intéressant parce que là, dès le départ, en fait, vous posez. Enfin, il y a plusieurs choses. C'est ça que je me permets de rebondir. La première, c'est que vous avez dit quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que c'est vrai que la vingtaine, subhanallah, c'est là où souvent viennent les premières questions de d'où je viens. Et ce qui est très intéressant, c'est que moi, par exemple, ces questions d'où je viens, ces questions identitaires, c'était plus lié à mes origines culturelles que culturelles. Le culturel, c'est venu après le culturel. Mais c'est super intéressant parce que c'est vraiment la preuve que parfois, si on répond pas avec les bonnes réponses, si on peut avoir tendance à. Je dis pas que c'est pas intéressant la culture, hein, pas du tout. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur ma culture et c'était très intéressant. Mais je remercie Allah de ne pas m'être uniquement focalisée dessus. Et je remercie Allah de m'avoir montré que c'est important de savoir d'où on vient culturellement, mais le culturel sans le culturel, ça sert pas. C'est pas que ça sert pas à grand chose, mais si on sera perdant, en fait, si on s'intéresse au culturel, pour le dire très clairement. Je trouve ça intéressant parce que vous, dès le départ, la question d'où je viens, c'était pas tant mon père est algérien et ma mère, elle est française, c'était plutôt d'où je viens religieusement. Et ça, je trouve que c'est une bénédiction parce que c'est pas toujours là où on va quand on veut répondre à cette question d'où je viens. Et le deuxième point que je voulais souligner, c'est que vous expliquez que, en fait, cet imam, ce cheikh, il vous a lié, en fait, l'intérêt de l'islam avec la mémorisation du Coran. Et ça, c'est une méthode qui est très, très, très souvent enseignée en France. Mais parfois, je crois comprendre qu'elle a ses limites. On en parlera un petit peu après. Mais est-ce que vous, en tout cas, dès le départ, c'est une méthode qui vous a paru intéressante ou dès le départ, vous avez senti qu'il y avait des limites à ça?
Bah, moi en fait je me sentais bien dans ça parce que tout le monde faisait ça autour de moi, premièrement, et ça me permettait d'avoir un lien avec la mosquée et un lien avec le Coran. Donc, et je ne savais pas, en fait, dans les débuts, et même certaines personnes pensent ça toute leur vie, ils pensent que notre foi est, comment on va dire ça, on compare notre foi avec notre mémorisation du Coran. Donc, moi, dans cette optique-là, je disais, du moment que j'ai un lien avec le Coran, ce lien, il me permet d'aller à la mosquée, mais tout allait bien pour moi. Tout allait bien pour moi, c'était... voilà, je parlais... On n'était pas, en fait, à l'étape de chercher à comprendre, etc. Parce que, vous savez, quand on a un retour à l'islam, on a une euphorie, on a une progression, parce qu'on ne connaît rien, donc on apprend beaucoup de choses, on met en pratique beaucoup de choses, parce qu'on met en pratique les bases de l'islam. On n'est pas encore à ce niveau à se poser la question, mais de ce que je connais du Coran, est-ce que je mets en pratique? Non, parce qu'on est dans ce changement, on est dans une mise en pratique et dans cette amélioration. Donc
Ouais,
les
c'est tout à
questions par
faire en
rapport,
fait. Ouais, bien sûr.
voilà, la question par rapport au but de la révélation du Coran ou à notre réelle relation avec le Coran, elle est venue après.
Bien sûr. Oui, mais de fait, en fait, c'est tout à fait logique. Comme vous le dites, au début, on connaît pas. Donc, en fait, tout à faire. On est sur un terrain fertile. Et puis après, ben, oui, se pose la question de, mais attends, j'ai appris tout ça. Mais donc, du coup, qu'est-ce qui va me servir? Enfin, ça paraît presque naturel, en fait, comme cheminement. Mais du coup, ça me permet, moi, d'aller sur une deuxième question, c'est que à quel moment vous passez de j'apprends des sourates par cœur à je dois apprendre le Coran entièrement? Parce que c'est un peu ce que vous avez commencé à dire et c'est clairement votre histoire par la suite. Et qu'est-ce qui a été le déclic pour vous en fait? Est-ce que ça s'est fait naturellement, encore une fois, parce que tout le monde faisait ça autour de vous? Ou est-ce qu'il y a eu un déclic où vous vous êtes dit non, je dois passer de quelques sourates à l'intégralité du Coran, Inch'Allah?
Je pense que cet imam-là, justement, il nous a fait prendre cette habitude, c'est-à-dire que tous les soirs, on allait à la mosquée pour réciter, et quand on n'y allait pas, vraiment, on ressentait ce manque. Et au début, on prend plusieurs jours pour apprendre une sourate, ensuite, ça va beaucoup plus vite, et puis on se dit, bah, pourquoi pas, en fait. Notre professeur, notre imam, bah, il connaît le Coran par cœur. On voit que le fait de connaître le Coran par cœur, c'est ce qui fait, c'est ce qui lui donne cette valeur, c'est ce qui fait que les gens le respectent. Il y a toujours, et nous-mêmes en tant que élèves, alors qu'on connaissait rien du tout, hein, mais le fait d'être tout le temps à la mosquée en train de réciter le Coran, bah les gens, ils nous mettaient un peu, ils nous apportaient beaucoup de respect. Et on se dit, bah en fait, je sais pas si c'est indirectement ou si c'est culturel ou si on entend ça tout le temps, donc, mais mémoriser le Coran par cœur, c'est le projet d'une vie et c'est le rêve de tout musulman. Et on se dit, je suis sur le chemin, bah pourquoi pas moi? Surtout que l'imam, il avait d'autres élèves qui apprenaient depuis longtemps et qui, eux, justement, terminaient la mémorisation du Coran. Donc, on se dit tout logiquement, bah, moi, je vais faire la même chose.
Ouais, c'est vrai. En fait, on est vraiment sur un espèce de parcours. En fait, on est sur une lancée et on se pose moins la question. Et c'est vrai, je vous rejoins quand vous dites qu'une personne qui a terminé le Coran, on la regarde toujours avec beaucoup de respect, d'admiration. Je pense que c'est pas une mauvaise chose, hein, forcément. Mais effectivement, ça reste un espèce de goal en France. Mais ce que je trouve intéressant dans votre parcours, c'est que justement, vous êtes arrivé à ce niveau-là et que ça s'est pas passé comme vous l'espériez, en fait, quelque part. Et moi, il y a vraiment un passage de votre histoire qui m'a interpellée et qui est disponible sur le site Vivre le Coran, pardon, et que j'aimerais rappeler ici parce que j'aimerais avoir votre avis sur ce passage-là, parce que moi, en tout cas, il m'a beaucoup touchée. Donc vous écrivez sur le site: je m'étais fixé, ou l'on m'avait fixé en réalité, comme but ultime de mémoriser le Coran entièrement, pensant qu'une fois l'avoir mémorisé, j'allais atteindre le niveau de piété des compagnons, qu'Allah les agrée. Je pensais que mémoriser le Coran entièrement m'aiderait à améliorer mon comportement, mes paroles, mes adorations. Malgré plusieurs essais, différents pays, différentes mosquées, différents instituts, différents professeurs, différentes méthodes, je n'ai pas atteint mon but. Et pire que cela, je ne m'épanouissais pas, ou rarement, dans mon apprentissage, qui était centré essentiellement sur la psalmodie du Coran et sa mémorisation. Ça, c'est un passage, je me suis dit, ça m'a ouvert la porte à énormément de questions. Vous avez déjà répondu à la question: qui est-ce que vous avez fixé un peu cet objectif? C'est un peu vous, c'est un peu le professeur, c'est un peu le contexte. Mais ma question, c'est: est-ce que aujourd'hui, avec du recul, parce que ça fait quelque temps maintenant que vous avez commencé, est-ce que vous pensez que ce lien de cause à effet, si j'apprends le Coran, alors je vais changer? Si j'apprends le Coran par cœur, alors je vais changer. Est-ce que vous pensez que c'est forcément un lien de cause à effet qui n'est pas bon? Et est-ce que vous pensez que cette méthode, elle doit vraiment changer? Parce que j'ai quand même le sentiment que c'est une méthode qu'on utilise encore énormément en France.
C'est une méthode qu'on utilise énormément en France et dans le monde entier. C'est pas simplement pour les musulmans francophones, hein, c'est le monde entier.
Okay.
Dans les pays asiatiques, c'est la même chose. Dans les pays arabes, c'est la même chose. Voilà, on a cette relation avec le Coran qui est basée sur ce que j'appelle les mots du Coran. Donc, on se concentre sur la lecture du Coran, les règles de tajwid et la mémorisation. Et on oublie ce que j'appelle l'essence du Coran, c'est compréhension, méditation et mise en pratique. Après, passer par cette étape-là, elle est importante parce que je le dis tout le temps, la lecture du Coran, c'est le premier lien qu'on a avec le Coran. La lecture du Coran, c'est le premier lien que l'on a avec le Coran, et ça a beaucoup de mérite. On ne va pas dire que celui qui lit le Coran, il n'a pas de mérite, que même s'il ne le comprend pas, que celui qui le mémorise même sans le comprendre, c'est un égaré, etc. Non, loin de là. Tout ce qui est en rapport avec le Coran, c'est bénédiction et c'est récompensé et c'est fortement recommandé. Par contre, si on se contente de ça, on ne profite pas à 100% des bienfaits du Coran. On ne profite pas parce que pour profiter des bienfaits du Coran, il faut le comprendre. Pour profiter des bienfaits du Coran, il faut répondre au but ultime de sa révélation qui est sa mise en pratique. Et c'est là où on va parler de purification de l'âme. Pendant mon parcours, en fait, j'ai pu rencontrer des gens, j'ai pu rencontrer des grands imams dans des pays différents. J'ai été parfois déçu en fait de voir que certaines personnes connaissaient le Coran par cœur, connaissaient le Coran avec différentes lectures, mais j'étais déçu par leur comportement, j'étais déçu par certaines actions qu'ils ont fait, certains propos qu'ils ont dit, et en fait je me disais
c'est
mais
fort.
Oui, bien sûr, je fais pas une généralité, hein.
C'est pas ce que vous faites, hein. Ouais, bien sûr.
Mais j'ai vécu des choses personnelles. Et des amis à moi ont vécu des choses. Il y a une histoire qui m'a fortement touché. Et ne prenez pas cet exemple pour dire « Ah non, mais moi, je ne mémorise pas le Coran parce que… » Non, c'est vraiment pas le but, parce qu'il y en a, ils vont prendre mes propos comme excuse.
Ouais,
pour excuse de dire « Ah, moi, de toute manière, comme je ne comprends pas, je ne mémorise pas ou je ne lis pas le Coran. » Non,
c'est le frère Abdelkarim qui l'a dit. Bien sûr.
Non, non. Le but, c'est d'avoir au minimum cette relation de lecture et de mémorisation, et petit à petit, on va évoluer. En fait, j'ai un ami qui, donc c'était un Américain, qui était en Égypte et qui avait un enseignant de Coran, qui avait les 10 lectures, qui est connu dans le monde entier, qui fait les salat tarawih avec des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes derrière lui et tout. Et ils ont fait du commerce ensemble, et il s'avère que cet imam l'a arnaqué de plusieurs milliers de dollars. Et je suis tombé de haut. Bon, c'est une histoire, hein. Bien sûr.
Mais ça en dit long, en fait. Enfin, juste, on l'a dit, pas juste pour colporter des histoires, mais c'est juste pour soutenir votre propos qui est de se dire attention. Lire le Coran, c'est de toute façon c'est une injonction qu'Allah nous donne, donc on est personne pour dire que c'est pas une bonne chose ou que pas du tout, mais que il faut faire redescendre le Coran. Pour faire redescendre le Coran dans les membres, dans le cœur, dans l'esprit, il faut aller à sa compréhension. Et de toute façon, Allah aussi nous enjoint à apprendre la langue arabe, c'est pas pour rien, hein. C'est aussi parce que à mon sens, point de compréhension sans aller justement au cœur de la langue arabe.
C'est ça. Et donc, moi, j'ai fait, comme vous avez dit, le contexte, le début nous pousse à mémoriser le Coran. Et c'est une très bonne chose parce que, je le répète, c'est notre premier lien avec le Coran et c'est ce qui nous donne une relation quotidienne avec le Coran. Celui qui ne part pas dans cette optique de mémoriser le Coran, il va pas lire quotidiennement le Coran, ou très peu. Alors que s'il a un objectif, il va au moins avoir ce premier lien avec le Coran qui est très important. C'est la première marche. Si on monte pas la première marche, on peut pas monter la deuxième et la suivante. Et honnêtement, j'avais cette image du compagnon, entre guillemets, hein, pour imager la chose. Je voyais les compagnons comme des super-héros, avec un costume, une cape, etc. Et je me disais, plus je mémorise le Coran, et plus je vais me transformer en ce super-héros. Plus ma cape, elle va grandir, etc. Mais en fait, c'était pas le cas. C'est-à-dire, plus je mémorisais le Coran, j'avançais dans le hifz, mais mon comportement, il changeait pas. Toujours les mêmes blagues, toujours le même comportement, toujours les mêmes paroles, des péchés qu'on n'arrive pas à délaisser, pas d'augmentation dans les adorations, ni au niveau qualitatif que quantitatif. Donc, à un moment, on se pose des questions. Soit on met ça de côté, on se dit, bon, de toute manière, c'est normal et on fait tous comme ça. Donc, on continue et on ferme les yeux. Ou soit on se pose de réelles questions et on regarde d'où vient le problème.
Ouais, ça fait deux fois que vous avez ce propos-là et je me dis que c'est peut-être bien de le souligner. C'est que vous l'avez dit au début, on se pose tous les mêmes questions. Mais après, bon, il y a ceux qui bottent en touche ou moi, je suis sûre on peut faire l'autruche, on peut dire, non, mais en fait, il y a un problème là, donc on le regarde ou on le regarde pas. Et là, c'est la deuxième fois, en fait, quelque part. Il y a eu la première fois où vous vous êtes dit, qui je suis et je dois répondre à ces questions-là. Est-ce que je suis vraiment musulman? Et c'est vrai, en fait, ce que vous dites, subhanallah, moi, j'ai fait des études supérieures aussi et quelque part, quand on n'est plus dans son environnement de départ, on se dit, oui, je suis musulman, je suis musulmane en l'occurrence pour ma part, mais qu'est-ce qui fait de moi une musulmane, en fait, si je vais dans les mêmes endroits que ces personnes-là, si je réponds aux mêmes blagues, mais par contre, je suis musulmane. Bon, il y a quelque chose à creuser. Et là, c'est la deuxième fois que vous dites ça aussi, tout le monde fait ça, mais en fait, là, je vois bien qu'en fait, il y a un sujet, en fait, quelque part, et je dois me poser les questions, et quelque part, être croyant, c'est ne pas se cacher la vérité. De toute façon, je pense même que c'est l'antithèse du croyant, c'est de... Allah n'aime pas le fait de cacher la vérité, en fait, de se dire, non, ça, c'est pas une bonne chose, parce qu'en fait, c'est ça qui emmène derrière à des problématiques, en tout cas, encore plus graves. Mais dans votre cas, qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé, du coup, vous êtes posé la question, mais qu'est-ce qui vous a aidé à transformer finalement votre rapport au Coran?
Avant de répondre à cette question, on va parler rapidement du parcours parce que je suis pas resté sur le même stade en fait. Après avoir pris des cours de Coran, ça a duré pas mal d'années, enfin pas mal, ouais, peut-être un peu plus d'un an. Ensuite, l'imam, il a eu des problèmes à la mosquée, il a quitté cette mosquée-là, donc c'était plus difficile de prendre des cours. Au fur et à mesure de mon parcours, j'ai compris l'importance de la langue arabe. Donc, j'ai appris à lire et à écrire assez rapidement. Hein. Et je le précise, c'est quelque chose de facile à faire. Donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, apprenez à lire rapidement l'arabe. C'est la clé. Hein. C'est la clé, c'est la base pour avoir une bonne relation avec le Coran. Et c'est super facile. C'est super facile. Donc ensuite, toujours dans cette soif d'apprentissage, et c'est vraiment cet imam-là qui m'a donné cette envie d'apprendre hein, et qui me conseillait sur la langue arabe. Donc j'ai pris des cours dans des mosquées de langue arabe. Malheureusement, il y a toujours des cours qui commencent, mais les élèves soit ne sont pas sérieux, on s'arrêtait toujours au même niveau. Sur plusieurs années, donc je me suis dit faut que je fasse un truc un peu plus sérieux, donc je me suis inscrit à l'université en fac d'arabe. Comme j'avais fini mon cursus, moi j'avais fait une fac de sport, STAPS, parce que je voulais devenir prof de sport. Quand j'avais fini ma licence, j'ai dit bon, j'ai jamais redoublé, je peux prendre une petite pause pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc je me suis inscrit à l'INALCO, j'ai fait 2 ans d'arabe, et ensuite voilà, je voyais que ça me bridait encore, donc j'ai décidé de partir en Égypte. Et alors, juste, pendant tout ce temps-là, j'ai...
Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'INALCO, vous pourriez juste repréciser ?
L'INALCO, en fait, c'est... je ne sais plus ce que ça veut dire, les mots... Hein,
sans avoir les sigles, mais je crois que c'est... Oui, exactement.
Ouais. En fait, c'est une fac dans laquelle on enseigne les langues orientales. Et donc, lorsqu'on s'inscrit au cursus... On choisit donc arabe par exemple, mais on a d'autres matières autour qui sont histoire, géographie, bref, plein de choses. Et moi, je m'étais inscrit que pour l'arabe. Tout le reste, ça m'intéressait pas.
C'était ça ma question en fait, parce que l'INALCO, c'est pas du tout quelque chose de religieux, juste pour que les gens se rendent compte. Et donc quelque part, est-ce que vous avez réussi à vous rapprocher du Coran en étant dans un environnement qui n'était pas forcément justement dédié à la religion ? Est-ce que le niveau d'arabe vous a suffi ? Est-ce que qu'est-ce que ça vous a apporté au final ?
L'INALCO, en tant qu'institut, moi, je ne le prenais pas du tout comme un institut religieux. Donc, j'y allais que pour la langue arabe. Et je savais très bien qu'on allait travailler la langue arabe avec des textes qui n'ont rien à voir avec le Coran et la Sunna. Et moi, j'assistais qu'aux cours d'arabe. C'était vraiment mon but. Et comme je n'avais pas trop le temps, je travaillais, etc. Donc, je m'organisais pour assister qu'aux cours d'arabe. Et c'est pour ça que j'ai arrêté, parce qu'au bout de 2 ans, même si on passe l'arabe, un moment, au bout de 2 ans, on est obligé de passer d'autres matières pour pouvoir passer au niveau supérieur. Mmh. Et moi, je ne les ai pas passées. Moi, je passais que l'arabe. Donc, la première année, c'est bon. Ils m'ont autorisé à passer en rattrapant les autres matières la deuxième année. Après la deuxième année, j'ai passé que l'arabe. Ils m'ont dit bon, là... Et donc, de là, je me suis dit, pourquoi pas partir dans un pays arabe ? Parce qu'à l'INALCO, ils m'ont appris les bases, mais c'était des bases vraiment sur l'écrit, la grammaire, la compréhension de texte, mais il n'y avait pas d'oral. Donc j'avais un assez bon niveau dans tout ce qui était écrit, mais je n'arrivais pas à sortir un mot en arabe. Donc je me suis dit, comme j'avais des amis qui avaient déjà entrepris ce projet et qui étaient installés en Égypte, je me suis dit, pourquoi pas faire comme eux. Et donc c'était en septembre 2008, je me suis dit, je pars pour 1 an. En Égypte, pour apprendre l'arabe et pour également continuer mon apprentissage du Coran. De là, donc j'étais parti pour 1 an. En fin de compte, j'en ai fait 7. À la fin de la première année, je me suis aperçu que l'arabe fallait encore pousser. Donc, je suis reparti pour une deuxième année. Je continuais ma mémorisation du Coran, l'étude des règles de tajwid, etc. Arrivé au bout de 2 ans avec un bon niveau en arabe, mes professeurs m'ont dit, mais en fait, pourquoi tu veux rentrer maintenant ? Là, l'arabe, ce n'est pas un but en soi, c'est un outil pour étudier les sciences religieuses. Maintenant que tu as cet outil-là, pourquoi tu rentres ? Je dis, ouais, moi, je suis parti pour 1 an. Là, ça fait déjà 2. Et ils m'ont dit, non, pense après voilà, aux musulmans francophones, qu'est-ce que tu peux leur apporter ? Pousse, entre guillemets, si tu n'as pas d'obligation familiale ou autre, continue. Et j'ai suivi ce conseil-là, donc je me suis inscrit à l'université, à l'Azhar. Et en fait, pour s'inscrire à l'université, il faut repasser son bac de sciences religieuses en arabe. Donc je me suis retrouvé à passer les tests et je me suis retrouvé en terminale. Donc il fallait faire une année de terminale pour aller à la fac. Donc, on s'imagine, à cette époque-là, je devais avoir quel âge ? On va dire c'était en 2011. Je devais avoir 26 ans et je me retrouve, après avoir eu mon bac en français en France, après avoir ma licence, etc., fait des études, on te dit, il faut retourner en terminale. Je dis, je le fais. Et je passe mon bac, je l'ai. Et donc, l'année suivante, je m'inscris en licence de sciences religieuses, de droit islamique. Et je fais 4 ans, parce qu'une licence là-bas, c'est 4 ans. Et j'obtiens ma licence. Et paradoxalement, tout ce parcours-là, il m'a éloigné du Coran.
Ah oui, pourquoi ?
Parce qu'on est tellement occupé à lire des livres, on a tellement de matière à étudier qu'on n'a plus le temps pour le Coran.
Waouh. Et pourtant, c'est des matières de sciences religieuses, non ? De ce que vous dites, au final, c'est quoi, des hadiths et...
Il y a tout, hein. Il y a différentes matières. On étudie la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on étudie le firq, ou sous le firq, donc les fondements du firq. On étudie l'histoire musulmane. Bref, c'est vraiment un panel. C'est clair qu'en lisant, on va avoir des versets du Coran qui vont venir argumenter, mais on n'est pas sur le Coran, on est sur d'autres livres dans lesquels on a des versets du Coran.
Et alors, du coup, je suis obligée de vous poser la question. Pardon, je suis obligée de vous poser la question parce qu'on a commencé, vous avez dit, je mémorisais le Coran par cœur, je n'ai pas vu de changement de comportement. Là, au bout de 4 ans où vous faites autre chose qui est quand même liée à l'islam, qui est quand même liée à votre foi, mais vous n'êtes pas proche du Coran, ça a changé votre comportement ou pas ? En fait, on a envie de savoir quelque part où est la solution. En fait, en tout cas, par curiosité, est-ce que ces 4 années, est-ce que ça vous a apporté dans la tête, dans l'âme et dans l'esprit, ou est-ce que finalement, au niveau de l'adab et de la foi, ça n'a pas eu un grand impact ?
En fait, ça a apporté essentiellement dans la tête. Parce que c'est dans les pays arabes, dans le niveau licence, en fait, ils veulent en mettre plein la tête aux élèves. Donc, il faut apprendre des définitions, il faut apprendre l'avis de certains imams. C'est que du par cœur. On ne te demande pas de comprendre. Donc, c'est que du par cœur. Donc, oui, mon niveau de science, il a augmenté. Mais à la fac, c'est que théorique. Il n'y a pas beaucoup de spirituel, il n'y a pas beaucoup de conseils pratiques. Donc, ça a augmenté mon niveau de science. Mais est-ce que cette science, elle était utile ? Je ne pense pas, parce que ce n'était pas une science qui a amené à la mise en pratique. Mais c'était une science qui est nécessaire. Parce que je parlais justement avec des amis à moi qui sont allés plus loin, qui sont allés en master. Et ils me disent, c'est à partir du master vraiment que tu rentres dans tout ce qui est spirituel, que tu rentres dans la mise en pratique, dans l'utilisation de tout ce que tu as appris préalablement. Ils estiment qu'en licence, ils t'en mettent plein la tête, t'es les bases, pour ensuite utiliser ça en master. Mais moi, je n'ai pas eu la chance de faire le master, donc je suis resté au niveau où je connaissais les définitions par cœur, je connaissais les arguments par cœur, etc. Mais c'est bien pour dire, moi, je connais ci, je connais ça, c'est bien pour faire des débats, argumenter, étaler son savoir.
C'est presque contre-productif si on ne fait pas attention, en fait. Si on ne fait pas attention, c'est presque l'inverse de ce qu'on est venu chercher, dans le sens où ça peut travailler son nefs, en fait, son ego, en disant « oui, moi, je sais ça, moi, j'ai étudié ». Je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais en tout cas, ça peut être un danger, je trouve.
C'est un danger, surtout que quand on voit les discussions qu'il y a entre élèves de l'université après, c'est on se retrouve pour manger, ça rentre que dans des débats. L'imam, il a dit ça, l'autre imam, il a dit ci, mais non, le professeur, il a dit ça. Bref, c'était avec du recul. J'ai appris beaucoup et là où mon âme, elle s'est enrichie, c'est par la rencontre d'élèves du monde entier. Et l'échange que j'ai eu avec des élèves du monde entier, que ce soit de l'Afrique, de tout ce qui est Asie, la Russie, les États-Unis, bref, on rencontre des gens et on échange sur des expériences incroyables et on voit que notre petite vie de Français, en fait, de Français privilégiés, elle n'a rien à voir avec la majorité des autres étudiants qui viennent là avec un but vraiment précis et qui ne sont pas là pour rigoler.
D'accord.
Moi non plus, j'étais pas là pour rigoler, mais c'était assez différent. Mais donc, mon passage à l'université, il m'a donné vraiment, j'appelle ça la culture générale de ce qui se dit dans les sciences religieuses. Bien sûr, j'ai pu parfaire mon arabe également, parce que j'ai pu lire vraiment beaucoup d'ouvrages sur des thèmes différents. Mais les points négatifs, c'est que ça ne m'a pas amené spécialement à une mise en pratique, parce que c'est totalement théorique. Et ça m'a éloigné du Coran, parce qu'on n'a pas le temps de réviser son Coran, on n'a pas le temps de lire le Coran. On n'a pas le temps de continuer sa mémorisation. Donc, je me suis quand j'ai eu ma licence en 2016, ok, j'ai eu un diplôme. Pour moi, je me suis même posé cette question-là, est-ce que ce diplôme réellement il vaut quelque chose? Bien sûr, il y a un travail hein, qui a été fait. Hein. Les examens, c'est super dur. Et on a un peu de Coran à l'université, mais c'est que de la mémorisation. On est interrogé donc deux fois par an, par les partiels, sur la mémorisation. Donc, on a un examen écrit et oral. Mais il n'y a pas d'explication. C'est voilà, il faut que tu apprennes la première année, tu dois apprendre Sourate al-Baqarah. La deuxième année, tu as Ali Imran et Nisa, par exemple. Mais il n'y a pas de...
Et même les examens... c'est que de la mémorisation, là, on est d'accord. Hein. D'accord, ok.
Moi, il n'y a que deux matières vraiment où je prenais plaisir à l'université. Il y a, on va dire, trois matières. C'était la Sira, la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On avait une matière qui s'appelait Tafsir Ayat al-Ahkam. Donc, c'est l'explication des versets dans lesquels il y a des règles juridiques.
D'accord.
Donc ça a été ma première expérience avec le tafsir. Et donc là, vraiment, on prenait les versets, on les détaillait, on les comprenait, on les appliquait dans les règles juridiques. Et il y a une autre matière qui était Usul Fiqh, donc c'est les fondements du Fiqh qui nous permet de comprendre la jurisprudence, de comprendre pourquoi il y a différents avis entre les imams, etc. Mais même ça, c'était... Ce qui m'a déçu, c'est même dans les examens, on n'interrogeait que notre mémorisation, on n'interrogeait pas notre compréhension. Je m'en souviens, les premières années, surtout en Usul Fiqh, je me disais, on a vu des règles à appliquer sur les différents cas de jurisprudence. Moi, je me suis dit, les règles, je ne les apprends pas par cœur, je les ai comprises et je sais les appliquer. Et en fait, à l'examen, c'était que du par cœur. Qu'est-ce qu'a dit tel imam dans tel livre quelle est la règle, écrivez la règle nananiana, quelles sont les preuves de cette règle-là. Et en fait, je me suis retrouvé devant ma copie, mais je dis, moi, je m'attendais à... On a un cas, il faut résoudre ce cas-là avec quelles règles vous allez utiliser pour résoudre ce cas-là, etc. Et en fait, j'ai compris que non, que ce n'était pas ce qu'on cherchait de nous. Et même dans Tafsir Ayat al-Ahkam, on nous posait des questions sur des trucs qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Je m'en souviens, en quatrième année, on a été interrogé sur ce qu'on appelle al-dhihar. Al-dhihar, c'est le fait que l'homme, il dise à sa femme, tu es pour moi comme le dos de ma mère. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un va venir me voir en me disant, j'ai dit à ma femme ça? Donc, j'ai dit, mais c'est hors contexte, en fait. Et bref, c'était ça ce que je reproche au cursus, c'est que du par cœur, on ne fait pas appel à notre compréhension, à notre façon d'utiliser les outils qu'on nous donne et qu'on est tellement chargé parce que c'est des pavés qu'on doit étudier que ça nous éloigne du Coran.
Waouh. Ah ouais, mais je pense aussi que c'est aussi parce que vous êtes c'est très français en fait de vouloir essayer de comprendre le pourquoi, le mettre en application. Je pense que c'est une richesse aussi qu'on a en France et c'est une chance aussi d'avoir c'est une chance qu'Allah nous ait permis de grandir en France parce qu'il y a vraiment en France on aime beaucoup stimuler l'intellect quand même. Et on est vite frustré quand on s'arrête justement à ce côté par cœur, etc. Mais alors du coup, moi j'ai très envie de savoir à quel moment vous avez décidé de reprendre en main votre apprentissage coranique. Parce que pour moi, le cœur de la conversation, il est là. C'est-à-dire que... Mais c'est très intéressant d'entendre votre parcours avant parce que je pense profondément que déjà, il y a pas mal de personnes qui écouteront et moi la première qui n'ont pas forcément de personnes autour d'eux qui ont étudié les sciences religieuses comme vous l'avez fait. C'est-à-dire que du coup, là, on a accès à une réalité qu'on ne connaît pas. Et c'est très intéressant et c'est très enrichissant. Mais du coup, on a envie de se dire, mais à quel moment, du coup, le rapport y change parce qu'on a l'impression que... tout est par cœur, en fait, jusqu'à ce que ça change peut-être, mais comment vous êtes parvenu à prendre un virage, je pense, déterminant dans votre rapport au Coran?
Alors, il y a deux déclics. Premièrement, pendant tout ce parcours-là, on revient à la même question ou au même sujet. Pendant toute l'université, j'ai fait l'autruche. je savais que ça m'éloignait du Coran. Je suis même arrivé à oublier des sourates du Coran que j'avais mémorisées précédemment parce que je n'avais pas le temps. En fait, c'est pas que je n'avais pas le temps, parce que c'est une question de priorité, tout simplement. On a le temps, mais j'ai priorisé mes études universitaires à ma révision. Donc, ce qui fait que j'ai oublié certaines sourates. Donc, le premier déclic, il a été quand j'ai eu mon diplôme. J'ai dit, OK, qu'est-ce que ça m'a apporté réellement ? Donc, toujours le même sentiment d'avoir progresser au niveau de la compréhension de notre religion, d'avoir des informations en plus, mais comportementales, spirituelles, voilà, il n'y a pas grande évolution. Au niveau du nombre des prières, on prend le Abdelkarim en 2008, on le prend en 2016, voilà, il n'y a pas une grande évolution, et il prie pas la nuit, il jeûne pas le lundi et jeudi, il rigole toujours autant, bref.
Et au niveau des prières, même des prières obligatoires, est-ce que vous sentez qu'il y a eu une évolution quand même, plus de concentration ou pas du tout ? Même ça, même au niveau des prières obligatoires, on n'y est pas vraiment.
Non, parce qu'en fait, on n'a pas ce travail spirituel. Et ça, c'est quelque chose qui est très négligé. C'est-à-dire qu'on va faire appel à l'intellect, mais on ne va pas faire appel au cœur. Et donc, oui, on peut trouver des gens, c'est des bibliothèques. Moi, j'ai vécu avec des élèves. Et c'était donc ils connaissaient le Coran par cœur, ils connaissaient des livres de hadith par cœur. Ils se levaient pas pour Salat al-Fajr. Donc à un moment je dis à quoi ça te sert en fait. Donc il y a toute cette expérience de l'université. À la fin, quand ça s'est fini et que pour des raisons extérieures j'ai dû rentrer en France, alors que moi j'avais prévu de rentrer en master, et quand je suis rentré en France, à un moment je me suis dit mais concrètement. Certes, quand je suis en France maintenant, les gens m'appellent Cheikh Abdelkarim. Oh, il a étudié en Égypte. Donc, à part mon ego et mon orgueil, qu'est-ce que ça m'a apporté concrètement ? Là, je me dis, mais en fait, pas grand-chose, quoi. Bien sûr, devant les gens, on fait genre, mais en fait, concrètement, oui, j'ai une connaissance. Oui, je connais plus de hadiths. En fait, moi, à ce niveau-là, je me disais. Lorsque les gens disaient Cheikh Abdelkarim, imam, je dis non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai lu plus que vous, c'est tout. Mais il n'y a pas de. En fait, moi, je considère toujours qu'il y a des gens, ils n'ont pas de science, mais ils font des choses que les étudiants ne font pas. Il y en a, ils prient la nuit alors qu'ils n'ont jamais rien étudié. Bref, le niveau de pratique, il n'est pas toujours en relation avec le niveau de science. Il faut arrêter de penser que des gens qui sont partis en Égypte pendant tant d'années, des gens qui sont partis en Arabie Saoudite pendant tant d'années, oui, ils ont plus de savoir que nous. Mais est-ce que spirituellement, ils ont évolué ? Est-ce qu'au niveau de la mise en pratique, ils ont évolué ? C'est ça le plus important. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, je vais arrêter de mentir. Ok, je suis revenu avec un diplôme, mais voilà, j'ai pas progressé, quoi. Ce diplôme-là, c'est pas mon accès au paradis, entre guillemets. Et donc, j'ai commencé à chercher d'où venait le problème. Je comprends pas. Je suis parti pour étudier et pour m'améliorer. Donc, bien sûr, je me suis amélioré. Hein, j'ai pas régressé ou j'ai pas rien fait non plus. Mais pas au niveau que je m'étais fixé.
Ok.
Et donc là, il y a la première. Voilà. Donc là, j'ai un peu plus de temps. Donc je commence à me remettre au Coran, même si mon retour en France était difficile parce que c'était pas prévu. Et donc entre temps, je me suis marié, j'ai des enfants. Et là, je reviens en France. J'ai pas de travail, j'ai pas d'appartement. Bref, c'était assez difficile. C'était un peu un choc. Et puis on sort de cette ambiance malgré les choses négatives que je vous ai dites. Hein, il y a l'ambiance de la science. On est entouré d'étudiants, on est entouré de chouyours, etc. Donc c'est quelque chose que quand on passe de ça au retour en France, voilà, quand on retourne en France, après avoir vécu 7 ans comme ça, voilà, c'est pas facile.
Alors, qu'est-ce qui n'est pas facile, honnêtement ? C'est quoi ? C'est les conversations que vous avez autour de vous ? C'est les vêtements ?
C'est le contexte, en fait. En France, on est dans les années 2016, donc il y a tout ce qui est autour du terrorisme. Donc, si on a une pression, on nous regarde mal dans la rue. Voilà. Et moi, quand j'étais en Égypte, entre guillemets, on ne s'occupe pas trop de ce qui se passe en France. Donc, il y a un décalage. Y a des choses qui ont évolué. Bref, c'est un autre monde.
C'est un choc culturel presque.
Exactement.
Okay.
Donc, il faut se remettre dans ça. Donc là, j'ai un peu plus de temps pour le Coran et je me dis, bah, il y a un problème dans ma relation avec le Coran. Si le Coran, il n'a pas eu ses effets sur moi, c'est qu'il y a un problème. Ensuite, bah, on me propose un travail en tant qu'enseignant de Coran, responsable pédagogique d'une mosquée, etc. Donc, j'accepte. Et j'ai des classes, que ce soit adolescent, enfant ou professeur. Et voilà, 2017, pareil. Hein. En fait, je me rends compte que dans ma relation, moi, personnelle avec le Coran, je ne suis pas épanoui. Et ça fait quelques années. Hein. Mais je le fais quand même.
C'est quoi et que vous là, appelez pas épanoui en fait, pour qu'on comprenne bien, en fait. C'est-à-dire que c'est pas un plaisir d'ouvrir le Coran ou c'est que vous vous élevez pas quand vous lisez ou... Parce que je pense que profondément, il y a pas mal de personnes qui pourraient s'identifier, mais je pense que ce serait bien qu'on aille vraiment au... C'est quoi pas être épanoui, en fait ?
Pas être épanoui, c'est avoir de la lourdeur à ouvrir son Coran et se dire, je le fais parce que les gens font comme ça. Mais je sais qu'il y a un problème, mais voilà, je fais pour faire.
Je fais pour faire, ok.
Donc,
okay.
Voilà, c'est... Et je ressens que dans mon enseignement, il transmet ça aussi, parce que je ne suis pas épanoui moi-même, donc comment je vais transmettre Et je vois que bah, je tombe dans la même chose, c'est que mes élèves, leur nombre de pages mémorisées augmente, mais leur comportement ne change pas. Et là, il y a eu un déclic, je me souviens, c'était en 2017. Je donne cours à des adolescents, et il y en a un, il vient, il se lève, il avait 17 ans, 17, 18 ans, il vient, il me récite une page du Coran, mais vraiment parfaitement. Lecture, sortie des lettres, tajwid, tout vraiment parfait. Quand il se lève, il retourne à sa place, il y a un autre élève qui se lève, et il le bouscule. Et celui qui m'a récité le Coran, il l'insulte de tous les noms.
Wow.
Mais comment ça se fait que quelqu'un qui vient de réciter le Coran parfaitement, 10 secondes après, il insulte de tous les noms l'autre élève. Et là, j'ai pété un câble, j'ai dit j'arrête tout, je vous écoute plus et tout ça, je suis sorti de la salle. Et c'est là vraiment, j'ai dit il y a un problème. Quelque part, il y a un problème. C'est pas possible en fait.
Ouais, puis c'est un problème qui vous dépasse en fait. C'est-à-dire que là, en fait, au début, c'était j'ai un problème chez moi. Et en fait, j'ai l'impression que là, vous réalisez que ah, en fait, c'est un problème qui est hyper global en fait, quelque part.
C'est ça, et en fait, c'est-à-dire que mon enseignement, il n'est pas utile parce que son comportement, en fait, c'est pas le comportement d'une personne qui apprend le Coran et qui vient de réciter une page de Coran. Donc là, il y a une remise en question totale au niveau de ça. Et donc, je me pose des questions et je contacte mes anciens chouyours en Égypte et je leur parle de ce problème-là. Je dis, même moi, j'arrive plus à avancer parce qu'il faut savoir que dans toute cette période-là, j'ai toujours pas atteint cet objectif de mémoriser entièrement le Coran. Il y a eu une bonne progression, ensuite ça a été coupé par l'université, ensuite bref, il y a eu beaucoup d'éléments extérieurs. Et de là, un de mes enseignants, il me dit, mais ce que tu ressens, tout le monde le ressent, mais les gens ne veulent pas affronter ce problème-là.
Waouh, quelle honnêteté.
J'étais content de voir que bah, c'est pas moi qui suis bizarre. Après, il me pose différentes questions. Il m'a dit, écoute, je vais te poser des questions. Tu me réponds honnêtement. Je dis, ok. Il me dit, est-ce que tu te considères trop mauvais pour changer, pour que le Coran il ait un impact sur toi? Je dis, bah non, le Coran, il a changé les compagnons. Les compagnons, leur jahiliya, leur vie avant l'islam était bien pire que ma vie. Ils tuaient des gens. Bref, c'était... Il me dit, ok, on est d'accord sur ça. Donc, il m'a dit, le problème, il ne vient pas de toi. Je dis, je ne pense pas. Il me dit, est-ce que le Coran a perdu ce pouvoir de changer le cœur des gens? Je dis, non, c'est impossible. Il me dit, ok, le problème, il n'y a pas du Coran. Donc, il me dit, le problème, il vient d'où? Je dis, je ne sais pas. Il me dit, bah réfléchis quelques jours. Je dis, mais non, tu ne peux pas me laisser comme ça. Il me dit, non, réfléchis, fais l'effort. Je dis, ok, on se rappelle quelques jours plus tard. Il me dit, alors, le problème, il vient d'où? Je dis, je ne sais pas. Il me dit, t'as pas trouvé? Je dis, non. Il me dit, le problème, il vient de la méthodologie d'enseignement et d'apprentissage du Coran.
Et vous n'aviez vraiment pas trouvé, objectivement? C'est-à-dire que vraiment, vous n'aviez pas... Ah, ok, ok, ok. Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que maintenant... Ok, ok.
Je dis, mais attends, le Coran va bien, je vais bien. Il est où le problème? Et moi, en fait, je pars chercher des choses compliquées, en fait, alors que c'était beaucoup plus simple. C'était la relation entre nous et le Coran, en fait. Le lien entre nous et le Coran qui allait pas. Alors que moi, je pensais à d'autres choses. Et donc, il me dit, c'est la méthodologie qui n'est pas bonne, la méthodologie d'enseignement du Coran d'aujourd'hui, elle n'est pas bonne. Et là, je tombe de haut. Je dis, mais pourquoi tout le monde fait ça, alors?
Ben c'est ça, en fait. Ça allait être ma question.
Il me dit, bah, on a été pris par ça. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Les cultures, l'intention. On a beaucoup parlé de l'intention. Quand tu mémorises le Coran, ton intention, c'est quoi? C'est de dire aux gens que tu vas mémoriser le Coran, ou c'est vraiment de te corriger, de prendre ton temps, etc. Et il me dit, ok, on va faire un... Il m'a dit, comme t'es... Et lui, en fait, c'est une personne qui travaille beaucoup sur ça, sur ce problème-là, notre relation avec le Coran. Mais comme j'avais pas trop le temps avec l'université de me poser sur ce problème-là, et c'est pour ça que je l'ai contacté lui après, il m'a dit, pour répondre à ton problème, je vais te donner des pistes, mais tu vas faire tes recherches tout seul. Il m'a dit, tu vas faire des recherches sur la méthodologie prophétique d'enseignement et d'apprentissage du Coran. Donc il m'a donné une bibliographie, des cours à écouter, etc. Il m'a dit, fais tes recherches et pose-toi la question, reviens aux sources, comment le Coran était transmis à l'époque du prophète Anselme, des compagnons et des premières générations. Et là, voilà, je suis tombé de haut quand j'ai commencé à ouvrir les livres qu'il m'a conseillé, que j'ai commencé à écouter les cours, et je me suis dit, on est vraiment, vraiment à l'ouest. Et donc j'ai fait...
Non, en fait ça me... Ouais, pardon.
Juste, je finis sur ça. J'ai fait une thèse, en fait. En fait, une thèse, c'est un grand mot, hein, mais j'ai travaillé sur ce sujet-là, et il m'a dit de lui rendre... je ne vais pas appeler ça un mémoire ou une thèse, parce que ce n'est pas à ce niveau-là, mais de lui rendre une recherche sur ce que j'ai compris de la méthodologie prophétique. Et donc, je lui ai rendu... Et m'a dit, t'es tombé sur le problème actuel. Et ensuite, c'est cette recherche-là que j'ai traduit en français et qui est disponible avec le livre Apprendre et enseigner le Coran comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
C'est incroyable, en fait. C'est incroyable parce que, en fait, c'est subhanallah, vous avez traversé, je sais pas, presque 10 ans, en fait, finalement, d'apprentissage, pour finalement vous rendre compte que la manière dont on vous a introduit, et même parce que c'était plus qu'une introduction, la manière dont on vous a introduit, puis après la manière dont vous avez appris les sciences religieuses, c'est complètement à l'ouest, en fait, en tout cas à l'opposé de ce que faisait le prophète, enfin à l'époque, ce qui se faisait, pardon, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ma question, c'est comment du coup ça se faisait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pourquoi finalement comment ça se faisait. Ça, je pense que c'est important qu'on le sache, parce qu'il y en a très très peu qui le savent. Moi-même, je l'ai découvert en fait avec vous, pour être tout à fait transparente. Et ma question, c'est, est-ce que aujourd'hui c'est dur d'appliquer cette méthodologie-là? C'est-à-dire, est-ce que nous-mêmes, en tant que individus qui avons baigné dans des modes d'apprentissage qui sont pas ceux-là, est-ce que c'est dur de nous récupérer ou pas, en fait? Est-ce qu'on en a envie? Est-ce qu'on est prêt? Voilà.
C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. J'espère que cet épisode vous a plu et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez choisi d'en retirer. Halal Love, c'est un podcast qui est conçu avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en envoyer un peu, beaucoup, passionnément, dites-le moi avec 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez 10 secondes et laissez un commentaire sympa, ça c'est si vous avez 1 minute. Si vous n'avez pas d'appareil Apple, aucun problème. Abonnez-vous sur l'application de votre choix, Spotify, Deezer, Google Podcast ou autre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, sur vos réseaux sociaux, auprès de vos proches, de votre famille, de vos amis. Un grand merci à celles et ceux qui le font déjà et ceux qui pensent à moi dans leur doura. Qu'Allah Azzawajal vous récompense de la plus douce des manières. Vous êtes géniaux, j'ai pas d'autres mots. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à mardi prochain si Dieu veut. En attendant, peace et halal love sur chacun d'entre vous.